C'est vrai, ce matin, nous avons lu dans le psaume 37 ce verset qui m'a tellement interpellé. C'est le verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset, vraiment, nous rappelle la vraie joie se trouve en Dieu, surtout lorsque nous nous appuyons sur lui, il agit en notre faveur. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans le livre de Néhémie. Donc, nous allons poursuivre notre troisième sujet. Nous avons déjà vu deux, c'est-à-dire dans Néhémie 2, nous avons déjà discuté concernant une foi entrodée. Ensuite, dans Néhémie 4, cette foi qui doit quitter vraiment les prières du palais et pour descendre dans la poussière du chantier. C'est-à-dire, il y a une truelle dans ses mains et une épée dans l'autre. Ça, notre ADN spirituel. Donc, ici, Dieu n'a pas seulement à cœur de reconstruire des murs. Il veut aussi réveiller un peuple. C'est ce que nous allons voir ce matin, ici, dans ce chapitre Néhémie 8. Ici, c'était vraiment un tournant. Les ennemis sont réduits au silence. Maintenant, Dieu va parler. Quand la parole de Dieu reprend sa place au centre, le vrai réveil commence. J'ai dit le réveil, pas de sommeil. Pas besoin de café. Juste ouvrir Néhémie 8. Nous allons lire ce passage maintenant. Passage Néhémie 8. À partir de versets 1 à 18. Est-ce que Didier, tu peux lire, s'il te plaît? Merci.
Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi, le livre prescrit par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur, Esdras, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, et Mazé, Saja, et à sa gauche, Edaja, Iskaël, Magika, Hachoum, Ashbadana, Zagari et Meshula. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était levé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. José, Bani, Chérébia, Jami, Akub, Shabetai, Ojida, Maseja, Kenita, Asaria, Josazat, Anna, Pelaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient, le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses, et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. » Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. David calmait tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Il se trouvait écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville, et Jérusalem. Allez, cherchez à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers, et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux. Ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela était ordonné.
Merci. Donc ce matin, on ne parle pas de sommeil spirituel, mais de réveil profond. C'est vrai, la bonne nouvelle, c'est vraiment on n'a pas besoin de caféine. Parce que la parole de Dieu, c'est un expresso divin ou un expresso céleste. Et le titre de mon message est « Un peuple réveillé par la parole ». C'est vrai, certains pensent que la Bible est un vieux livre poussiéreux. Mais non, la Bible est vraiment un détecteur de mensonges, un miroir du cœur. Ici, quand on ouvre le Néhémie 8, pour moi, c'était vraiment un électrochoc spirituel. Vous savez, Victor Hugo a dit « L'Angleterre a 2 livres. La Bible et Shakespeare. L'Angleterre a fait Shakespeare, mais la Bible a fait l'Angleterre. » Le peuple le plus fasciné par la Bible, c'est Israël. Donc ici, quand l'Église s'éloigne, ou l'Église ne vit pas près de ce livre, c'est vrai, cette église, elle perd beaucoup de bénédictions célestes. C'est pour ça que nous voyons ici dans le psaume 1, versets 2 et 3, « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Ici, dans ce chapitre, un peuple qui a tout reconstruit, sauf son cœur. Oui, ce livre, Néhémie, à partir de chapitre 1 jusqu'à chapitre 7, les murailles sont rebâties. Mais une fois qu'on arrive vers le chapitre 8, c'est là, Dieu, il commence à rebâtir le cœur de son peuple. Tout commence par une décision simple mais puissante. C'est quoi? Remettre la parole de Dieu au centre. Remettre la parole de Dieu au centre. Donc ce matin, je vous propose que nous allons voir 3 grandes étapes d'un réveil, d'un vrai réveil. Donc la première étape, il faut comprendre la parole de Dieu. Voyons ici, à partir de versets 1 à 8, en voyant là-bas, c'est l'intelligence est révélée. C'est-à-dire, c'est notre cœur. Quand l'intelligence est révélée, le cœur peut être transformé. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un gris-gris spirituel. La Bible, c'est pas Harry Potter. La Bible, c'est pas une baguette de sorcier. Mais il faut comprendre. Il faut croire et il faut vivre. C'est là que la puissance se déclenche. Vous savez, la vraie transformation commence quand on comprend ce que Dieu dit. Vous voyez ici, on voit souvent dans ce chapitre, on voit souvent le mot comprendre. Ce mot comprendre revient au moins minimum 6 fois dans ce passage-là. Versets 2, 3, 7, 8, 12 et 13. Qu'ils étaient capables de l'entendre. Même au verset 3, même l'assemblée était filtrée, c'est-à-dire seuls ceux capables d'entendre étaient invités. Vous savez, dans certaines églises, on propose des programmes de lecture mensuelle ou annuelle pour encourager à lire toute la Bible. C'est bien. Mais le vrai enjeu de ne pas dire que moi j'ai terminé tel livre, moi j'ai terminé tel chapitre, c'est de comprendre ce qu'on lit pour que la parole transforme réellement notre vie. Lire la Bible sans chercher à comprendre, c'est lire une recette sans savoir cuisiner. Tu finis avec un gâteau cramé ou une foie à moitié cuite. C'est vrai, il faut comprendre pour porter du fruit. Dans Matthieu 13, c'est ce qu'il dit Jésus. Connaissons la parabole du semeur. Jésus explique que la compréhension est ce qui fait toute la différence. Sans compréhension, égale la semence reste en surface. Mais avec la compréhension, elle prend racine, pousse et porte des fruits. Vous savez, une Bible comprise est une vie transformée. Ici, nous voyons Esdras, un enseignant modèle. Il était l'homme de la situation. Quand on lit dans le livre Esdras, chapitre 7, verset 10, il avait disposé son cœur à étudier la loi et la mettre en pratique et à l'enseigner. Il n'était pas là pour improviser. Il était prêt, il était équipé, il était engagé et enseigné debout, publiquement, avec les Lévites. Mais surtout, il expliquait la parole dans un langage clair. Et les Lévites traduisaient, expliquaient. C'était pas « Amen, Amen », même si j'ai rien compris. Mais, attends, explique-moi, je veux appliquer. C'était leur esprit. Nous lisons ici concernant la porte des eaux. Vous savez, la porte des eaux est un symbole puissant. Pourquoi se rassembler à la porte des eaux dans la Bible? L'eau pour se laver est la parole. Et l'eau à boire est le Saint-Esprit. Donc c'est logique. Ils se sont rassemblés à la porte des eaux. Pourquoi? Parce que la porte, c'est un bain pour l'âme. Ce n'est pas une douche rapide de dimanche matin, mais c'est un lavage en profondeur. J'aimerais bien souligner ici 3 gestes puissants d'Esdras. Vous savez, lui, il a apporté le livre. Versets 1 à 4. Vous savez, lui, il a apporté la Torah. Peut-être c'est une lecture concentrée sur le Deutéronome. Il monte sur une estrade en bois, entouré de chefs. C'est vrai, c'est une image de majesté, c'est une image de respect. Ensuite, au verset 5, il ouvrit le livre. Quand il ouvre le rouleau, tous les peuples se lèvent. Le peuple resta debout pendant la lecture et l'explication de la loi. Esdras commença tôt le matin et continua jusqu'à midi. C'est-à-dire que la congrégation écouta debout pendant 5 à 6 heures. Et cela chaque jour pendant une semaine. Chers amis, chers frères et sœurs, imagine un peu 6 heures de Bible sans pause café. Aujourd'hui, après 20 minutes, on check. Déjà, si c'est bientôt à l'appel final. Mais eux, ils ne demandaient pas combien de temps ça dure. Ils demandaient combien de vérités avoir, recevoir. Ensuite, au verset 7 et 8, Esdras, il a expliqué le livre. Vous savez, le peuple n'avait pas la Bible personnelle dans le temps. C'est pourquoi ils étaient émus, c'est pourquoi ils étaient attentifs à la parole de Dieu. Ici, le mot, c'est marqué ici au verset 8, distinctement, signifie que la loi était expliquée dans un langage que le peuple comprenait. Peut-être la parole était traduite, exposée, appliquée. Mais j'en suis sûr qu'il faisait le pont entre le texte sacré et la vie quotidienne. Résultat, la proclamation publique plus que l'application personnelle, c'est la transformation durable. Vous savez, ici, quand je suis en train de lire et quand j'ai commencé à lire ce passage et surtout ce chapitre, j'ai vu que comment ils respectaient la parole de Dieu. Je me suis rappelé ce verset dans 1 Timothée 4, verset 13. Nous appliquons à la lecture publique de l'Écriture. Vous savez, dans nos églises modernes, la lecture publique de la Bible est trop souvent négligée. On veut des messages courts, on veut des messages dynamiques, humoristiques, mais pauvres, pauvres en profondeur. Vous savez, parfois la Bible traîne, utilisée comme sous-main ou oubliée sur le banc. C'est vrai, même apporter sa Bible en papier, c'est un peu old school comme les dinosaures. Et c'est vrai, on dit la Bible est la parole de Dieu. Et alors, traitons-la comme telle. Donc ici, dans notre première étape, ce réveil spirituel commence quand l'intelligence est éveillée. Maintenant, nous allons voir la deuxième étape. À partir de verset 9 à 12, il faut se réjouir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, ici, le cœur est touché. Une parole qui fait pleurer. En plus, eux, ils explosent de joie. Alors que Esdras lisait et expliquait la parole, une étrange chose se produit. Le peuple se met à pleurer. Pourquoi tant d'émotions? Parce que, vous savez, la parole de Dieu agit comme un miroir sans filtre. Nous lisons dans Romains 3, verset 20, « Par la parole vient la connaissance du péché. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas, mais elle révèle le besoin d'être sauvé. Elle expose notre cœur. Même j'ai envie de dire que c'est comme un selfie en ultra HD spirituel. Tu pensais que c'était ok, mais quand tu vois ton âme, tu dis aïe aïe, Seigneur, ce n'est pas photogénique, ce n'est pas très instagrammable. Vous savez, attention, la tristesse, ce n'est pas la fin du voyage. C'est juste une étape, ce n'est pas une destination. Vous savez, d'abord c'est la conviction, ensuite la repentance, la purification et la célébration. Ici, on voit très bien cette séquence. Le calendrier juif illustre parfaitement cette séquence. Le peuple venait de vivre le jour d'expiation dans Lévitique 16. Et ensuite, c'était la fête des tabernacles, une semaine de joie, une semaine de louange, une semaine de gratitude. Ici, nous voyons une parole qui fait bondir le cœur de joie. Ici, Néhémie, Esdras et les Lévites, ils disent quoi? Ils disent au verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Dans d'autres termes, il dit, « Il n'y a pas besoin de pleurer. Maintenant, prenez une assiette, buvez du jus de raisin et ça explose en joie, ça explose en louange. » C'est vrai. C'est faux de pleurer quand Dieu a pardonné et par contre de se réjouir quand on vit dans le péché. Dieu ne dit pas « Sois triste plus fort ». Ce n'est pas une invitation à pleurer davantage. Mais il dit quoi? « Recevoir ma joie pleinement. » Recevoir ma joie pleinement. Nous lisons dans Jérémie 15, verset 16, « Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Lire la Bible sans y trouver de joie, c'est juste comme ouvrir un Kinder Surprise sans surprise dedans. Vous savez ici, la Bible les fait pleurer. Chers amis, quand la parole de Dieu vous a-t-il fait pleurer pour la dernière fois? Quand la parole de Dieu vous a-t-elle fait pleurer pour la dernière fois? C'est vrai, certains pleurent à cause de leur péché. Même encore d'autres, peut-être, ils pleurent parce qu'ils disent que je n'ai pas lu ma Bible depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est tout. Vous savez, ici, Dieu dit de faire la fête. Imaginez une scène. Esdras, il a terminé la lecture. Ensuite, Néhémie, il fait quoi? Il dit, maintenant tout le monde, à table, que tout votre être rayonne pour Dieu. C'est vrai. La parole de Dieu, pour moi, j'ai l'impression que c'est une surprise sucrée. Lire la Bible avec foi, c'est comme mordre dans un cupcake. Tu pensais que c'était bon, boum, il y a une crème au milieu. Vous savez, les joies de l'Éternel, dans toutes les situations, est votre force. Vous savez, souvent on utilise ce verset-là. Quand on trouve dans les situations compliquées, je dis « joie de l'Éternel est votre force ». Mais la joie de l'Éternel, ce n'est pas une émotion forcée. C'est la réaction naturelle d'un cœur qui entend, qui comprend et qui croit à la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui donne la joie. Et cette joie devient notre force pour toute notre situation. C'est quoi le secret? C'est quoi la recette pour la vraie joie chrétienne? C'est le secret pour la vraie joie chrétienne, c'est de croire ce que Dieu dit dans sa parole et d'agir en conséquence. Vous savez, une foi sans la parole, c'est juste la supposition. Une joie sans la foi, c'est juste une émotion creusée. Mais la foi fondée sur la parole, c'est vraiment une joie profonde qui résiste aux tentations. C'est vrai, dans l'Antiquité, on cachait des trésors dans des jarres enfouies. Mais, par exemple, un paysan trouve une jarre d'or. Il fait quoi? Il va sauter de joie. Mais toi, as-tu creusé aujourd'hui dans la parole de Dieu? As-tu trouvé ton trésor du jour? Voyons ici, dans le psaume, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, et il médite jour et nuit. » Et toi, te réjouis-toi dans la parole? Plus que dans la nourriture, plus que dans le sommeil, plus que dans la richesse. Si tu te réjouis dans sa parole, Dieu se réjouira en toi. Et c'est sûr, il partagera ces bénédictions, ces grandes bénédictions célestes pour nous. Donc, la parole est un miroir pour nous corriger. Et la parole est une source pour nous réjouir. La joie de l'Éternel est ta force. Nous allons voir maintenant la troisième étape. À partir de verset 13 à 18, il faut obéir à la parole, c'est-à-dire la vie transformée. Une obéissance née de la joie. Après avoir entendu, après avoir compris la parole, le peuple goûte à la joie et puis il obéit. Mais cette obéissance ne vient pas ni de la peur, cette obéissance ne vient pas de la pression religieuse, mais elle vient d'un cœur joyeux. C'est pour cela que nous lisons dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quand tu sers Dieu avec joie, sa volonté n'est plus un fardeau, elle devient un festin. Obéir aussi avec beaucoup de joie, avec enthousiasme. Ici, le chef découvre que Dieu avait ordonné de célébrer cette fête de tabernacle. Ils obéissent immédiatement, toute la ville se transforme en camping spirituel. Pourquoi? Parce qu'au verset 17, nous lisons que « Depuis le jour de Josué, jamais cette fête n'avait été célébrée avec autant de joie. » Donc, ce n'était pas des campings sauvages, c'était de l'obéissance festive. Imagine un peu Jérusalem transformée en camping géant. Pas de wifi, pas de jacuzzi, mais de louanges à plein tube. Ici, obéir aussi, c'est réfléchir. Ils entendent, c'est pas seulement obéir, ils entendent réfléchir tous que Dieu il a fait dans leur vie. Ils sont en train de regarder en arrière en disant que la fidélité de Dieu dans le désert, pendant les 40 ans de désert, regardez autour d'eux et remerciez Dieu pour les bénédictions actuelles et aussi regardez en avant pour l'espérance du royaume à venir. C'est vrai, il y a deux façons d'obéir Dieu. Une façon, c'est avec une tête de citron percée. Ça, c'est comme l'obéissance forcée ou avec le sourire de quelqu'un qui a goûté goût de l'orange de la grâce. Ici, cette joie transforme. Ça veut dire quoi? Cette fête, ce n'était pas juste un événement culturel. Elle produisait un renouvellement spirituel. C'est pour cela que nous lisons ici au verset 18, « Jour après jour, on lut dans le livre de la loi de Dieu. La parole nourrit la joie et la joie nourrit l'obéissance. » Vous savez, une joie plus forte que la douleur. Ce Jean nous rappelle concernant une femme enfante dans la douleur, mais sa souffrance est transformée en joie par la naissance. Ce n'est pas une substitution. Mais c'est une transformation. Et Dieu ne donne pas la joie malgré la tristesse. Il donne la joie au milieu de la tristesse. Vous savez, la mère accouche dans la douleur. Mais quand le bébé arrive, c'est la joie. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il faut maintenant l'éduquer. Vous savez, une joie et aussi c'est une joie qui se partage. Ici, ils partagent avec les autres, ils partagent le repas, ils partagent les bénédictions, ils partagent des cadeaux. Et aussi, quand on voit ici un réveil se produit à l'époque de Néhémie. Dieu a déjà réveillé son peuple dans le passé, dans l'histoire. Il peut le faire encore aujourd'hui. Mais veux-tu qu'il commence par toi? Veux-tu qu'il commence par toi? Nous avons vu trois réactions puissantes de la parole de Dieu. comprendre la parole de Dieu, c'est-à-dire éduquer et méditer. Deuxièmement, se réjouir dans la parole de Dieu. Reconnaître ta joie. Reconnecte ta joie à la vérité. Et obéir. Ça, c'est plus compliqué. Vous savez, ici, le peuple redécouvre une fête oubliée. Une fois qu'ils ont pensé à ça, ils obéissent immédiatement. Résultat, c'est une très grande joie. Tu vas voir Dieu agir dans ta vie, chers amis. Obéis à ce que tu sais faire déjà. Pas de réveil sans obéissance pratique. Dieu ne cherche pas des auditeurs. Il cherche des exécutants joyeux. Dieu, il veut nous montrer le bon chemin, la bonne direction. Vous savez, obéir, ce n'est pas agir par instinct. Obéir, ce n'est pas agir par émotion, mais c'est trouver ou se retrouver la bonne direction. Pas celle du monde, pas celle de la chair, mais celle que Dieu nous donne dans sa parole vivante. Vous savez? Mais attention, par n'importe quelle obéissance. C'est là que ton cerveau entre en jeu. Une fois que le cerveau a compris cette obéissance, c'est là, ça touche le cœur. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était sur terre, il avait une autorité, il avait une tête, il avait une autorité. C'était quoi? C'est une autorité soumise à son père. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Il n'a pas fait ce qu'il voulait, mais il a fait ce que le père voulez, c'est là que commence la vraie obéissance. Pas quand tout est facile. C'est facile d'obéir quand tout est beaucoup plus facile. Mais quand tu es à Gethsémané, en sueur, en lutte, quand tu dis non, pas ma volonté, mais la tienne. Obéir sans tout comprendre, c'est compliqué. Obéir sans tout comprendre. Imaginez si je te disais, va à la mairie, un million d'euros t'attend. Tu vas y courir. Non? Tu obéis sans réfléchir. Mais obéir quand tu sais que tu vas perdre quelque chose. Obéir quand tu sais que tu vas souffrir, même mourir. Ça, c'est autre chose. C'est là que Dieu regarde ton cœur, si ton cœur est vraiment éveillé, ou si ton cœur est vraiment réveillé. Beaucoup veulent exercer l'autorité, mais sans passer par la soumission. Vous savez, au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris, nous entendons ça souvent, mais ils citent les versets comme des sorts magiques. Mais ils oublient que Jésus, à Bethesda, il a guéri seulement un seul homme, pas tous. Il a guéri seulement un seul homme, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui. Vous savez, quand Paul veut prêcher, c'est-à-dire Actes 16, verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Vous savez, c'est qui empêche? C'est le Saint-Esprit qui l'empêche. Pas le diable, pas une attaque, mais juste Dieu qui dit non. Pourquoi? Parce que Dieu, il ferme une porte. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a autre chose mieux. Parce qu'il a quelque chose de plus grand, il a quelque chose de plus sage. Marcher par l'esprit, ce n'est pas faire ce que je veux, mais de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Vous savez, quand la parole de Dieu reprend sa place au centre, le vrai réveil commence. Malheureusement, vous savez, c'est une constatation triste dans beaucoup d'églises ou dans quelques églises aujourd'hui, on a changé le centre. Certains ont mis l'importance sur l'argent. Certains et d'autres sur le bâtiment, d'autres même sur les responsables. Résultat, on a des églises bien décorées, bien financées et même bien dirigées, mais malheureusement, spirituellement endormies. Pour moi, j'ai cette image dans la tête, c'est comme mettre le volant à la place du moteur. Vous savez, dans une voiture, on met le volant à la place du moteur. Ça a l'air très beau, mais ça ne démarre jamais. J'ai envie de dire que Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Oui, chers amis, tu veux du réveil dans ta vie? Tu veux le réveil dans ton couple? Tu veux le réveil dans ton église? Pas besoin de 10 ou 12 ans de stratégie ou 10, 12 ans, de 15 ans de réunion. Il suffit d'une rencontre authentique avec la parole vivante de Dieu. Vous savez, dans ce chapitre, nous avons vu un peuple totalement captivé par la parole de Dieu. Toute la personne était impliquée. Premièrement, nous avons vu l'intelligence, comprendre, c'est notre cerveau. Deuxièmement, se réjouir, c'est notre cœur. Et troisièmement, obéir, c'est nos jambes qui bougent. Donc si Dieu veut agir en son peuple et par son peuple, alors on doit répondre favorablement à sa parole. C'est vrai, Dieu t'appelle, chers amis. Dieu t'appelle au réveil spirituel. Et toi, tu appuies sur quoi? Sur snooze. Vous savez, là, c'est un rappel dans 10 minutes ou plus tard. Voilà, vous retardez la voix de Dieu. Non, il est temps de te lever, pas de dormir ou pas de traîner dans la foi. Le réveil ne commence pas demain. Le réveil ne commence pas après-demain. Il commence maintenant. Est-ce que on peut dire dans une seule voix, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure d'écouter. Il est temps d'ouvrir nos cœurs et dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Que notre compréhension de la parole de Dieu produise une joie véritable. Que cette joie nourrisse une obéissance joyeuse. Amen. Amen.